VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel aux Comores. Campagne référendaire sans embûche pour le président Azali. Monsieur Azali Assoumani a convoqué les électeurs comoriens le 30 juillet pour leur faire approuver un test qui lui permettra, entre autres, de rempiler pour 10 années. De plus, les adversaires politiques de l'ancien putschiste l'accusent depuis des mois de dérive autoritaire et ont choisi donc de boycotter le scrutin qu'ils jugent illégal. Si le oui l'emporte lundi, le chef de l'État comorien a promis de remettre son mandat en jeu, d'organiser dès 2009-2019, selon les nouvelles règles, une élection présidentielle anticipée à laquelle il sera lui-même candidat. Son projet prévoit aussi la suppression des 3 postes de vice-président des Comores, celle de la Cour constitutionnelle, et fait de l'islam la religion d'État du pays à 99% musulmans. Au Mali, 30 000 hommes seront déployés sur l'ensemble du territoire pour sécuriser l'élection du 29 juillet prochain. 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager 24 candidats à travers 12 000 centres de vote, mais certains candidats continuent de contester le fichier électoral et d'aucuns estiment que la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire. À Bamako, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Cette présidentielle ressemble à un saut dans l'inconnu. Les Maliens prient pour une issue heureuse du scrutin du 29 juillet prochain. C'est pour cela que les associations de la société civile multiplient les appels au calme. Bamoussa Touré, coordinateur et chef de quartier de Bamako.
Ils sont tous des hommes et une femme dedans. Bon, ils sont tous animés d'un désir de se rendre utile à ce pays d'une certaine manière. Donc, nous avons cru devoir appeler tout le monde, conjuguer les efforts, les volontés, surtout pour que l'élection soit une élection transparente, une élection crédible et une élection apaisée.
La situation sécuritaire au centre et nord du pays inquiète plus d'un Malien. Amadou Touré, habitant de Mopti.
Quand je dis l'insécurité, cela veut dire que la population n'est pas sécurisée à 100% et de nos biens. Donc à chaque fois que nous voyons des djihadistes qui viennent, n'importe comment, à chaque fois ils amènent des plans pour nous attaquer, ils tuent nos soldats, les civils. Hein? Non, ce n'est pas les militaires seulement qui sont visés, même les civils sont visé par la sécurité en question, mais il faut accuser l'administration, parce que l'administration qui est là pour travailler, pour pouvoir donner le matériel nécessaire pour pouvoir travailler, ne fait pas son travail.
Pour le Premier ministre, des dispositions sont prises. 30 000 forces de sécurité seront déployées le jour du scrutin sur l'ensemble du territoire. Soumaïlou Boué Maïga, Premier ministre du Mali.
Actuellement, nos forces de sécurité sont parvenues à répondre aux besoins exprimés par un certain nombre de candidats pour leur sécurisation. Le 29, on aura sécurisé 12 925 centres de vote. Donc ça vous donne une idée des moyens humains et matériels à déployer. Bon, mais pour le moment, pour les exposés qui m'ont été faits, pour la réalité que je sais aussi du terrain, je pense que nous sommes en capacité de faire face à un éventail assez large de cas de figure aussi.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, tout est fin prêt pour le faire. Baba Haman Maïga, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Les derniers documents qui devaient être positionnés étaient les documents électoraux, notamment les bulletins de vote. Je peux vous affirmer qu'à la date d'aujourd'hui, tous les bulletins de vote sont arrivés à destination. N'explique qu'aux différentes représentations de l'État et aux ambassadeurs et aux consuls de les positionner au niveau des centres de vote et des bureaux de vote pour les 2 jours qui restent. Nous avons atteint pour la première fois un taux satisfaisant de 73% des remises des cartes électorales. Taux insoupçonnable au début des opérations le 20 juin.
Les candidats multiplient les actions en ces derniers jours. Tous les candidats se préparent à tenir leur meeting de clôture, soit dans les régions ou dans la capitale. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président ougandais Yoweri Museveni s'achemine vers une présidence à vie, a dénoncé aujourd'hui un avocat représentant l'opposition après que la justice ougandaise a supprimé la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la tête de l'État. Au pouvoir depuis 31 ans, le dirigeant ougandais âgé de 73 ans a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidence, provoquant la colère de l'opposition. L'avocat de l'opposition entend donc consulter les plaignants pour décider s'ils font ou non appel. Les États-Unis ont renouvelé hier leur critique sur les machines électroniques à voter en République démocratique du Congo. Kinshasa compte utiliser ces machines pour le scrutin du 23 décembre, mais pour Washington, cela représente un risque énorme et inutile. Abdourahman Dia.
L'ambassadeur américain adjoint aux Nations Unies, Jonathan Cohen, a mis en garde contre un système inopérant lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RD Congo. Il réclame un vote avec des bulletins papier. Le diplomate américain se demande ce que feront les autorités congolaises si ces machines à voter qui n'ont pas été testées ne fonctionnent pas le jour des élections. En février, les États-Unis avaient déjà parlé d'un énorme risque à utiliser des machines à voter de manière électronique. L'émissaire de l'ONU à Kinshasa, l'Algérienne Leila Zeroughi, a reconnu des progrès significatifs dans le processus électoral, mais elle a déploré dans le même temps la persistance de suspicions et de méfiance au sein de la population, citant notamment le problème des machines à voter. Pour l'ambassadeur congolais aux Nations Unies, Ignace Gatamavita, la machine ne votera pas à la place de l'électeur, mais imprimera les bulletins que l'électeur ira mettre dans l'urne. L'opposition dit ne pas vouloir des machines à voter, soupçonnant le pouvoir de vouloir s'en servir pour frauder.
L'administration américaine de Donald Trump a décidé de débloquer une aide militaire de 195 millions de dollars à l'Égypte, gelée jusque-là en raison d'atteinte aux droits de l'homme. L'aide militaire américaine à l'Égypte avait été en partie suspendue en 2013 par l'administration démocrate de Barack Obama en réaction à la répression contre les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi, avant d'être rétablie en mars 2015 avec une enveloppe de 1,3 milliard de dollars par an.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une délégation d'une coalition arabo-kurde soutenue par Washington tient pour la première fois des discussions à Damas sur l'avenir des régions sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie. Cette délégation du Conseil démocratique syrien, le bras politique des forces démocratiques, les FDS, effectue pour la première fois une visite officielle à Damas à l'invitation du gouvernement. Le président Bachar al-Assad a indiqué Riyad Ghaa, le coprésident du Conseil. Nous œuvrons en faveur d'une solution concernant le nord syrien, a-t-il dit. M. Dara a émis l'espoir que les discussions à Damas seraient positives en insistant sur l'absence de toute condition préalable aux négociations. La délégation comprend plusieurs responsables politiques et militaires de haut rang. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé aujourd'hui la construction de 400 nouveaux logements dans la colonie de Cisjordanie occupée, où un Israélien a été tué la veille par un assaillant palestinien. La meilleure réponse au terrorisme est le renforcement des implantations, a affirmé M. Lieberman sur Twitter, en annonçant la construction des 400 logements dans la colonie d'Adam, près de Ramallah, dans le nord de la Cisjordanie. L'ONU doit se serrer la ceinture. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que son organisation souffre d'un problème de trésorerie, précisant dans un message à ses fonctionnaires préparer des mesures d'économie. Le point avec Raïssa Girondin.
Antonio Guterres précise au personnel de l'ONU que les problèmes de trésorerie n'ont jamais été aussi précoces et la tendance générale est préoccupante. Nous sommes à court d'argent et nous restons dans le rouge plus longtemps. Fin de citation. Ce manque est provoqué principalement par le fait que des États membres ne payent pas ce qu'ils doivent à temps, selon le patron de l'ONU, qui a réclamé à ces pays d'accélérer le versement de leurs contributions au budget de l'ONU. Les Nations Unies comptent deux budgets. Un de fonctionnement adopté en décembre d'un montant de 5,4 milliards de dollars sur deux ans et un pour les opérations de paix adopté en juin de 6,7 milliards de dollars sur 12 mois. Selon l'ONU, la pratique de payer avec retard ses obligations financières est courante, mais cette année, la difficulté financière intervient plus tôt que les années précédentes. Selon le site de l'ONU, 122 pays étaient à jour de leur contribution en juillet. La liste ne comprend pas les États-Unis, premier contributeur à hauteur de 22% du budget de fonctionnement des Nations Unies, devant le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France.
Merci Raïssa. Le Pakistan attendait toujours ce vendredi le résultat des élections législatives de mercredi que l'ex-champion de cricket Imran Khan affirme avoir remporté, tandis que ses rivaux crient à la manipulation. Les missions d'observation de l'Union européenne et du Commonwealth doivent donner dans la journée leurs premières impressions sur le déroulement du scrutin qui a été marqué par un climat acrimonieux et par de sanglants attentats. Plus de 36 heures après la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale pakistanaise, ACP, n'avait toujours pas achevé le comptage des bulletins, s'attirant à un feu roulant des critiques. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et bon week-end sur les ondes de la Voix de la Belle.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Allez chérie.